Salut Raphaël.
Salut Patrick.
Donc, aux États-Unis, on continue à inciter les gens à aller se faire vacciner et on va même avoir recours aux services de Uber et de Lyft.
De Uber et de Lyft qui vont offrir, suite à une entente avec la Maison-Blanche annoncée aujourd'hui, un transport gratuit à tous les sites de vaccination répertoriés par la Maison-Blanche, la grandeur du pays, aux Américains qui veulent se faire vacciner. Tout ça, ça va être disponible donc jusqu'au 4 juillet. Ça, c'est une annonce qui a été faite. Une autre annonce également aujourd'hui, si jamais il y a des doses additionnelles de vaccins qui sont jugées nécessaires, là, je parle après les deux premières doses pour les vaccins à deux doses, ce qui est parfaitement possible, soit dit en passant, là, les géants pharmaceutiques américains eux-mêmes s'attendent à ce que le virus passe de pandémique, à épidémique à endémique, donc qu'il y ait des doses additionnelles semi-régulièrement là, qui sont nécessaires, bien, elles seraient acquises à l'avance et elles seraient fournies, déboursées par le gouvernement fédéral américain. Donc, tout ça s'est annoncé aujourd'hui. J'en profite aussi pour te parler de ceci qui était, je trouve, extraordinairement intéressant, qui a eu lieu au Congrès aujourd'hui. Dr. Anthony Fauci, qui comparaissait devant le Sénat, il y a eu un échange assez houleux sur l'origine du coronavirus. Parce qu'on sait qu'il y a une théorie depuis le début de cette crise-là, généralement adoptée, comme quoi le virus est d'origine animale. Soit ça vient d'une chauve-souris, bon, ça a été transmis à l'homme via un mammifère, on connaît l'histoire. La théorie alternative, c'est que, et c'est pas une théorie du complot, là, je le précise, c'est que ce serait le produit d'un laboratoire, plus spécifiquement, l'Institut de virologie de Wuhan en Chine.
Qui est vraiment là, à un jet de pierre là, du fameux marché mouillé. Comment on dit en français?
C'est ça, c'est exactement ça.
Un marché mouillé. Et puis, il y a un reportage d'une chaîne française. Là, on a eu la journaliste sur nos ondes. Le problème, Raph, c'est que les services de renseignement occidentaux n'ont jamais pu dire avec certitude, écoutez, c'est ça qui est arrivé.
Exact. Il n'y a personne qui peut le confirmer. Tout ce qu'on se fait dire, notamment par l'OMS, c'est qu'on devrait continuer à enquêter. Donc, ça fait l'objet de débats. Et donc, au cœur de cette affaire-là, il y a ce qu'on appelle la recherche gain of function, ce qui avait lieu au laboratoire en question. Donc, on mute artificiellement en laboratoire des virus qu'on juge au potentiel pandémique pour pouvoir faire des expériences dessus. Autrement dit, on prend par exemple un virus d'influenza, puis on le modifie en laboratoire pour lui faire acquérir des fonctions pathologiques additionnelles, d'où l'expression gain of function. Il gagne en fonction. Donc, on le rend plus dangereux. C'est une forme de biologie synthétique. Le bénéfice potentiel est extraordinaire parce que on pourrait peut-être se parer en faisant ça à un nouveau virus qui pourrait émerger puis causer une pandémie. Le risque potentiel, bien évidemment, c'est qu'il y a un accident puis qu'il y a une fuite au laboratoire et que ce virus-là, bien, en fait, cause une pandémie. Fait que, comme tu le dis, c'est pas démontré. Mais ce que ça soulève, je pense, c'est deux pistes de réflexion fondamentales. La première, c'est quand on regarde en arrière, c'est-à-dire que il y a, ou en tout cas, il devrait y avoir une question d'imputabilité. Tu sais, écoute, si après le show de ce soir, par exemple, en quittant la station, tu te fais frapper par un automobiliste, ben l'automobiliste va avoir des comptes à rendre à la justice, même si c'est un accident. Mm-hmm. Dans le cas de la COVID, là, il n'est pas question d'un accident qui a frappé une personne. Il est question d'un virus qui est associé à la mort de 3 millions de personnes dans le monde.
Mais bon, là, ça se passe en Chine, qui est un pays là, qui n'est pas transparent du tout. Fait qu'on, Raphaël, je pense qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé là-dessus. Une fois que ceci est dit, mettons que ça s'était passé aux États-Unis, là, que les Américains aussi font des tests de virologie puis ils modifient des virus, etc. Penses-tu qu'on aurait la vérité?
Sais-tu quoi? Je le sais pas. Mais ta question me mène directement à mon deuxième point, c'est-à-dire, t'as absolument raison. Les Américains non seulement mènent ce genre de recherche-là, mais les financent depuis des années.
Ça n'a rien de secret, là, hein, parce que dans le reportage de chaîne française, on a vu la journaliste sur nos ondes, Raphaël, elle nous expliquait que, bon, ils vont tester des virus pour essayer de voir comment on peut contrer les virus. C'est pas nécessairement là, un outil de... Ça peut être un outil de guerre bactériologique, mais c'est pas forcément ça non plus.
Et il ne faut pas que ça soit ça. Et de tout ce qu'on en sait, ce n'est pas ça. Donc, le risque, pour l'instant, heureusement, il n'est pas au niveau de guerre bactériologique.
Mais qu'est-ce que le Dr Fauci avait à dire là-dessus récemment?
Ce que le Dr Fauci avait à dire, et c'était très intéressant, parce que à quelque part, il patinait un petit peu, parce qu'il ne pouvait pas défendre vraiment le financement qui était fait aux États-Unis de ça. Donc, ce qu'il a dit très clairement, c'est que les États-Unis ne finançaient pas ce type de recherche-là en Chine. Autrement dit, d'aucune façon est-ce qu'on peut tenir le gouvernement américain responsable de ce qui s'est passé en Chine, même s'il y avait une certaine association entre ce qu'on appelle les National Institutes of Health, là, qui est une partie du gouvernement fédéral américain, et le fameux institut à Wuhan en Chine.
Non, mais c'est vraiment une histoire fascinante. Puis comme je te dis, je te posais la question sur les États-Unis. Est-ce qu'on le saurait? Je ne sais pas si on le saurait, mais tu as des mécanismes de contre-pouvoir, les médias, des commissions sénatoriales, etc., qui pourraient faire enquête puis avoir un début de réponse. En Chine, tu n'auras jamais le début de ça.
C'est ça la grosse distinction. Puis tu sais, là, on se parle de la COVID, en fait, qui est, pour prendre la terminologie là, exacte, le SARS-CoV-2. Tu sais, le SARS-CoV-1, là, c'était pas ce qu'on appelait la COVID, c'est ce qu'on appelait le SRAS là, au début des années 2000. Oui. Tu sais, on l'a complètement oublié collectivement, mais la réalité, c'est que on l'a échappé belle à l'époque et on l'a échappé belle suite à ce que la Chine a menti pendant des mois au monde, au reste du monde. Donc, on a eu une reprise jusqu'à un certain point de ce qui s'était passé au début des années 2000. Et là, ben, force est de constater, on l'a pas échappé belle. Fait qu'effectivement, quand tu as un régime autoritaire de cette nature-là qui n'est pas transparent, disons que ça peut amener des conséquences assez fâcheuses pour le reste de la planète.
À demain, Raphaël. Merci.
À demain.